Cette année, j'ai pris la décision de changer de travail. Et entre ces deux jobs, j'ai réussi à dégager un peu de temps, environ 25 jours. Et j'ai donc décidé d'aller vivre un petit rêve et de partir en Afrique du Sud, vivre une expérience de ranger dans un parc naturel.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Sylvain, qui nous amène en Afrique du Sud. Avec lui, on a parlé de requins, de braconnage et de coucher de soleil.
J'ai bourlingué à travers le monde. Le jour J est arrivé, je me suis retrouvé dans l'aéroport, seul. Et là, il y a forcément les questions qui commencent à arriver, quelques petites sensations, être entre l'excitation de partir seul, vivre une aventure, un rêve, et en même temps l'appréhension de se dire bah, est-ce que je fais pas une folie? J'essaye de pas y penser. Je faisais ce voyage aussi parce que voilà, j'ai eu une année un peu compliquée sur le plan personnel et je voulais vraiment que ce soit un nouveau départ. Faire feuille blanche et du coup la porte de l'avion s'est fermée et je me suis dit allez tu laisses tout derrière toi et c'est parti. J'avais une escale à Johannesburg, j'avais 2 heures d'escale, donc je prends mon temps, je vais enregistrer mes bagages pour le vol suivant et puis je me dis je vais me balader dans le duty free. Je passe la douane, je commence à marcher et là je mets ma montre en marchant, puis là il y a un mec qui m'accoste, ça me surprend et là je fais tomber ma montre par terre. Et là, c'est un peu, bref, c'est débile, mais c'est le premier coup dur, je la ramasse, elle est cassée. Là, le mec, il s'excuse un petit peu. En fait, c'était un cireur de chaussures. Il voulait avoir un client. Il me dit, ouais, ça fait plus d'1 heure que j'ai pas eu de client, s'il te plaît, viens. Moi, là, j'étais un peu agacé, je venais de casser ma montre. Et là, du coup, je lui demande, j'essaie de lui remettre ma montre à l'heure quand même, et je lui demande l'heure. Et là, il me dit qu'il est, genre 10h30. Et moi, je fais, non, il était plus 9h30. Et en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'il y avait un décalage horaire d'1 heure. Ça, c'est un truc que j'avais complètement zappé. Toi, quand tu pars en voyage, tu crois avoir pensé à tout, et en fait, t'as pas pensé à tout. Et en fait, je me rends compte que si j'avais pas eu ce moment où j'ai cassé ma montre et que j'avais réalisé qu'en fait, il y a 1 heure de décalage, ça se trouve, il aurait pu y avoir une merde encore plus grosse qui serait que j'aurais loupé mon deuxième vol. Donc je me dis que dans ce petit malheur, quand même, il y avait une bonne chose, quoi. J'embarque pratiquement tout de suite. Et voilà, je pars pour Port-Elizabeth. À Port-Elizabeth, je suis censé rester 4-5 jours tout seul avant de commencer mon expérience dans la réserve naturelle, mon expérience de ranger. Arrivé à Port-Elizabeth, il y a du soleil, j'arrive sur le tarmac, il y a une petite odeur de kérosène, moi qui travaille dans l'aéronautique, c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, je me sens bien. Je suis tout excité à l'idée de découvrir la ville et de me dire, voilà, je vais vivre 4 jours à l'autre bout du monde, tout seul, dans une ville que je connais pas, et on va voir comment ça va se passer. Faut savoir que Port-Elizabeth, c'est la 6e ville d'Afrique où il y a le plus de criminalité. Après, en Afrique du Sud, ça va être la 3e ou 4e. Donc, forcément, t'arrives avec un petit a priori. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu le jeu quand tu voyages aussi, de sortir de tes limites, quoi. J'avais réservé un petit Airbnb dans le quartier résidentiel populaire de la ville. Arrivé au Airbnb, je décide d'aller faire des courses. On perd pas de temps. Je regarde vite fait sur mon portable où est le supermarché le plus proche. Alors en Afrique du Sud, c'est que des Spar. Il y a des Spar partout. Et je me dis, allez, j'y vais à pied. Donc je commence à partir dans les rues de la ville, découvrir les alentours. Et alors c'est vrai que dans cette ville, il peut régner un petit sentiment d'insécurité. Bon, alors déjà, il y a des petits groupes de gens qui traînent un peu partout, ça vit un peu dans la rue, quartier populaire, et à la fois, rien que dans l'architecture, les maisons, il peut y avoir une maison qui paraît totalement délabrée, à côté une maison qui est très jolie, mais à chaque fois autour, t'as des grandes grilles, t'as du barbelé, tu peux avoir des fils électriques,
Donc tout ça, ça participe vraiment à donner un sentiment d'un peu d'insécurité. On se dit que même les locaux, eux, ils ont peur de... Voilà. Et bon, je pars arpenter les rues de la ville, direction le Spar. En y allant, je me perds un petit peu. Et j'arrive dans le quartier, genre bien populaire, quoi. Avec des petits gangs dans la rue... Et là, tu te sens pas forcément à l'aise. Enfin, moi, c'était mon ressenti. Tu te sens un peu épié. Les gens, ils te repèrent un peu de l'autre côté du trottoir. Avant même d'avoir traversé la rue, tu vois que là, il y a des mecs qui t'ont déjà spoté de l'autre côté et puis qui commencent à marcher dans ta direction. Et tu te dis, ouais, il va m'aborder, quoi. Et là, ça manque pas. Il y en a un qui t'accoste. Puis après, va même plus loin, un deuxième. Bon, ils voulaient me vendre de la marchandise, hein. Et puis après, un troisième. Puis après, il y en a quatre, cinq en même temps, tu vois. Et c'était cinq autour de moi. Tu te sens pas serein. Je fais style de rien. Je bombe le torse. Je me tiens droit. Et puis finalement, je leur dis, bon, bah, écoutez, les mecs, non, c'est gentil, mais je cherche pas ça. Moi, je cherche mon chemin. Je veux trouver le supermarché. Ils m'ont indiqué le chemin. Ils fait, ouais, bah, alors, le Spar, c'est deux rues plus loin. Mais par contre, si tu cherches quelque chose, hein, tu reviens me voir, tu vois. Donc, voilà, ça participe au sentiment, t'es pas serein. Mais bon. Du coup, je fais mes courses et puis je rentre à mon Airbnb. Je veux pas perdre de temps. Je veux tout de suite préparer mes journées du lendemain. J'avais prévu plusieurs choses. Dès que je voyage, moi, ce que j'adore, c'est faire de la plongée. Là, Port-Elizabeth, c'est clairement un endroit où tu peux le faire. La plongée, du coup, elle est à 7h du matin. Et donc, lendemain matin, 6h30, prends mon Uber et hop, direction la plage. Je me fais accueillir par ma future guide de palanquée, du coup. Elle est super sympa. Elle m'accueille très bien. Là, on monte dans le bateau et on est une dizaine de plongeurs. Et ils ont l'air plutôt aguerris, eux. Et on voyait qu'il fallait que ça file droit. Donc quand je dis top, 1, 2, 3, top, on plonge et tout le monde à l'eau et c'est parti, quoi. Donc voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Je reste à flotter un peu la surface, j'avais pas nettoyé mon masque. Et là, je vois que tout le monde est déjà parti. Hop, je vide mon gilet, je commence à plonger. Et en fait, la visibilité est assez mauvaise, on voit pas à 5 mètres. Je commence à plus voir les gens. Je me dis non, je vais pas commencer à perdre ma palanquier. Donc je me presse, je descends très très vite. Là, j'ai une oreille qui passe pas. Ça m'arrive jamais, donc je commence à avoir un peu mal, donc je me force, je me bouche le nez, je souffle, finalement ça passe. Arrivé en bas, je retrouve toute ma palanquée, on voit, il y a une meilleure visibilité, mais elle est pas dingue non plus. La plongée est pas exceptionnelle, mais à un moment, il y a un gros banc de poissons qui passe, et là, des requins qui arrivent. Les requins qui arrivent, ils sortent de nulle part, ils arrivent sur toi, ils te tournent autour. Ça pourrait faire peur comme ça, mais moi, pour moi, ça, c'est un truc qui me galvanise, toi. Je suis fou, je suis wow. Voilà. Ça a rendu la plongée juste dingue. Après ce moment un peu fort, la plongée est finie. J'ai toute la journée devant moi. Je décide d'aller faire une petite rando. J'avais vu que, tout au sud de Port-Elizabeth, il y avait une réserve. C'était à une petite dizaine de kilomètres. Mais, je décide de partir à pied. J'ai suivi le littoral et d'aller jusque dans cette réserve. Donc voilà, il faisait beau, je pars. Je savais pas trop où j'allais arriver, je voulais juste marcher. Je savais pas trop s'il y avait quelque chose vraiment à voir au bout. Et là, bon, voilà, je suis déjà au moins une heure et demie, deux heures de marche. Et bon, c'est joli, mais je vois pas le but, en fait. Donc je me demande, est-ce que je vais pas rentrer? Je me dis, non, c'est trop bête, continue et puis tu verras bien où t'arriveras. J'avance, jusqu'au moment où j'arrive finalement à la pointe. Et là, j'arrive dans un lieu, mais magique. Une grande plage, immense, une eau turquoise, des rochers partout, une lumière, mais magnifique. T'avais le son des vagues, enfin c'était un tout. Et c'était le paradis des oiseaux. T'avais des pingouins, des goélands, des mouettes, des grands oiseaux. Je m'y connais pas beaucoup en oiseaux. Mais voilà, c'était vraiment un endroit magique. Et je me suis dit, voilà. T'as persévéré, t'as avancé, et voilà, ça c'est ton cadeau, tu vois. Et là, je me suis senti super bien. Fort de tout ça, je rentre. Et voilà, c'était ma première journée. Par la suite, du coup, les journées suivantes, je fais beaucoup de balades. Beaucoup de rando, beaucoup de balades. Ce qui est super cool quand tu voyages seul, c'est que tu fais beaucoup de rencontres. C'est, tu te poses à un bar. En plus, moi j'avais entrepris d'écrire un journal de bord. Pendant ce voyage, tu te poses à un bar, tu prends un petit verre, et puis là, t'écris ton journal de bord. Et puis les gens, je pense, ça te donne de la consistance. Et du coup, les gens, ils viennent et ils t'abordent tout seul. J'ai parlé toute l'après-midi, pendant 3-4 heures, avec un couple cinquantenaire, j'ai envie de dire, local. Ils m'ont vu, ils ont commencé à me poser des questions, et puis voilà, on a passé l'après-midi ensemble. On a parlé de tout et de rien, on a parlé de moi, on a de mon voyage, d'eux, de leur vie ici. Et par exemple, eux, ils avaient un petit dilemme entre eux, c'est que sa femme voulait créer un Airbnb chez eux, et lui, il voulait pas. Et après m'avoir rencontré, il m'a dit « Moi, je crois au destin ». Je te vois, toi, là, et voilà, ça m'a fait changer d'avis. Et finalement, je pense que je vais faire un Airbnb. Le mec m'a donné son adresse mail pour qu'on reste en contact, pour me montrer l'évolution de sa création de Airbnb, et puis demander ce que j'en pense. Et puis voilà, enfin, voilà, tu rencontres des gens et c'est toujours improbable. Malgré toutes ces rencontres, quand tu voyages seul, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que quand même, il y a toujours un moment où tu te sens, voilà. Et voilà, moi je sais que j'aime voyager seul, mais pas trop longtemps. Voilà, j'aime bien partager ce que je vis. Alors heureusement, il y a deux Français avec qui j'allais vivre cette expérience de ranger qui arrivaient le jour d'avant de commencer l'expérience. Et du coup, on avait décidé de se retrouver dans un bar. À peine je les ai rencontrés, on s'est posé et puis on s'est super bien entendu. On sentait qu'on était là pour la même chose, pour la même envie, c'est-à-dire de vivre une aventure, découvrir plein de choses, découvrir la nature, les animaux, la faune, la flore. Enfin voilà, c'était, on avait la même passion en fait. On a passé une soirée super cool et ça m'a galvanisé. Ça. Genre je me suis dit voilà, bon, j'ai vécu 4 jours tout seul. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et là l'aventure va vraiment commencer. Du coup, le lendemain, on s'est tous retrouvés à l'aéroport. Il y avait une voiture qui nous attendait. Et là, on a retrouvé une partie du groupe avec qui on allait vivre cette expérience de ranger. On est tous passés par des ONG et on était une équipe d'une quinzaine de volontaires en fait. Là, dans le groupe, il y avait toutes les nationalités. Il y avait Américains, Anglais, Hollandais, Autrichiens. Enfin, il y a vraiment de tout. On était plutôt des jeunes. On était une dizaine entre 20 et 30 ans. Et il y avait quelques personnes plus âgées, cinquantaine d'années. Par exemple, je me rappelle de Dave, passionné d'oiseaux, qui venait là aussi pour vivre son aventure. Donc on prend le van et puis on arrive dans la réserve. On est accueilli dans un lodge. C'est le lodge où on allait vivre avec les rangers. C'était super joli. C'était limite très confort. Je m'attendais à moins de confort en fait. Je vais pas dire que j'étais déçu, mais je pensais vivre un peu plus roots. Bon, après, ça reste l'Afrique, c'est-à-dire qu'il fallait quand même faire attention. Par exemple, quand on prenait une douche, récupérer l'eau qu'on n'utilisait pas dans des seaux pour pouvoir après aller arroser les plantes avec. Ils faisaient vraiment attention à tout. Et, enfin, voilà, c'était super beau. On était dans la réserve, séparés de la réserve uniquement par un petit grillage d'1,50 m de haut. Franchement, c'était pas forcément rassurant. Ce qui était dingue, c'était que le soir ou même pendant la nuit, tu pouvais entendre les lions rugir juste derrière le lodge et ça te rappelait voilà que t'es dans la nature. C'est une sensation, tu dis voilà, c'est plus, je suis plus en haut de la chaîne alimentaire quoi. Ici c'est faut respecter, faut faire attention quoi. Et je me souviendrai toujours de ce jour où on était dans le lodge, on entend des rugissements, on va au grillage, et là, il y a un lion. Mais genre, le lion, il passe, et il s'arrête. Et nous, on est juste derrière le grillage, il est à 15 mètres, et il nous regarde. Et ça te donne pas le même effet quand t'es au zoo, tu vois. C'est là, tu sens que l'animal est sauvage, il te regarde d'une manière, voilà, tu bouges plus, t'es en respect total. S'il voulait passer la barrière, clairement, il pourrait. Voilà. Et là, il y a eu ce moment, ça a duré peut-être 30-40 secondes, il s'est arrêté, il nous a regardé, et là, franchement, on était « Wow !» Ça y est, on y est, quoi. Et ouais, c'était un moment assez fort. Donc le but de cette expérience, c'était de vivre avec les rangers, de les assister dans leur travail, de les suivre pendant leur journée. Il y a plein d'activités différentes quand t'es ranger. Principalement, il y a du monitoring d'animaux. Ton but, c'est de les recenser. Tu te balades... Alors, chaque journée, c'était différent. On pouvait faire du monitoring d'éléphants, de rhinos, de léopards. Et là, en plus, c'était la saison où il y avait plein de petits. Donc, le but, c'était de trouver un groupe d'animaux, essayer de savoir s'il était déjà répertorié ou non, savoir s'il y en avait des nouveaux, essayer de les reconnaître. Alors, tu prends tes jumelles. Suivant les espèces, c'est pas les mêmes façons de les reconnaître. Par exemple, pour les rhinocéros, ils leur faisaient des entailles aux oreilles. Donc ça, c'était assez simple. Suivant la configuration des entailles, tu reconnaissais quel animal c'était. Les éléphants, c'était un peu pareil, sauf que c'était en fonction de toutes les autres caractéristiques physiques aussi. S'ils ont des égratignures sur les pattes, ils m'en manquent une queue. Mais c'est donc sur leurs oreilles, voir s'il y avait des trous, des déchirures. Ça. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Les léopards, eux, comme ils sont très durs à repérer, eux, ils étaient pucés. Donc, on avait des outils télémétriques pour essayer de les repérer. Voilà, ça, c'est vraiment la partie que je préférais, là, le monitoring. Observer les animaux, les regarder dans leur environnement, et puis essayer de voir comment ils évoluent. À chaque fois qu'on repérait un groupe d'animaux, il fallait noter où, quand, comment, noter les coordonnées GPS. Voilà, c'était vraiment ça, c'est la partie ranger que je préférais. Après, il y avait d'autres missions, aussi un peu plus s'occuper de la flore. C'est-à-dire que faire un peu de jardinage. Par exemple, il y avait toutes des zones qui étaient envahies par des cactus. Les cactus sont pas originaires de la région. Et du coup, ils pompent toute l'eau du sol et au détriment de la végétation locale. Et c'est au détriment de la végétation, donc c'est au détriment des animaux qui s'en servent pour vivre. Donc, il fallait enlever tous ces cactus. Donc là, c'est aussi une partie qui est un peu excitante parce que du coup, tu es au milieu du bush, enfin de la réserve. Et voilà, tu travailles dans la réserve à pied avec tes petits outils et tu peux tomber sur n'importe quoi. Donc à chaque fois qu'on descend du véhicule, de toute façon, c'est établir un périmètre de sécurité, respecter les règles, de pas trop s'éloigner. Ça a pu arriver qu'il y ait des animaux qui viennent s'approcher. Alors, heureusement, on n'est jamais tombé sur des lions ou ça, mais c'était juste un facochère par exemple. Mais bon, si t'as une bonne bestiole, tu dis... Si elle s'approche trop près, voilà, je fais pas le malin, quoi. Et puis, c'est arrivé de passer le lendemain à un endroit où on a travaillé et il y avait toute une famille de lions à cet endroit-là, tu vois. Donc, franchement, ça rigolait pas sur la sécurité, mais voilà, c'est quelque chose de super excitant de travailler au milieu de la réserve. Parce qu'en fait, et c'est vraiment pour ça que j'aime cette idée de travailler en réserve, c'est que c'est un endroit qu'il faut respecter parce que voilà, c'est plus toi qui domine, en fait. T'es au milieu de la nature et faut faire gaffe à tout, quoi. C'est, tu redeviens un animal parmi les animaux. Donc on était aussi amené à faire des actions avec la patrouille anti-braconnage de la réserve. Faut savoir que le braconnage, c'est un véritable fléau en Afrique du Sud, surtout le braconnage de rhinocéros blanc. L'Afrique du Sud accueille 80% de la population de rhinocéros blanc. Et l'espèce est en voie de disparition totale. À un tel point que, en fait, toutes les réserves d'Afrique du Sud, en fait, ne communiquent même plus le nombre d'animaux qu'ils ont dans leurs réserves pour pas attirer les braconniers. Donc, le braconnage touche principalement les rhinos blancs pour leurs cornes. C'est dû principalement au marché asiatique qui voue des vertus thérapeutiques à la corne de rhinocéros. Faut savoir qu'en vrai, c'est principalement composé de kératine, qui est le même élément que tu trouves dans tes ongles ou dans tes cheveux. Enfin, on saurait que s'il y avait des vertus thérapeutiques à se ronger les ongles. Et le marché est alimenté par le fait que voilà, c'est la corne sur le marché noir se vend assez cher, plus que l'or ou n'importe quelle autre ressource. Ça a pu monter jusqu'à plus de 80 000 dollars le kilo. Donc autant dire que voilà, il y a des gens que ça motive. Et ce qui est un fléau aussi, c'est que malheureusement, c'est que les braconniers en soi, c'est des gens qui ont pas beaucoup de ressources et qui voilà, quelqu'un leur propose de les payer 10 000 dollars pour aller chercher une corne de rhinocéros. Eux, ils ont le couteau sous la gorge, voilà, ils y vont et puis en vrai, ils risquent leur vie en fait, parce que ces personnes-là, en fait, elles vont dans les réserves. Et elles y restent 3-4 jours, et elles posent des collets, et puis elles attendent qu'un animal se prenne dedans. Donc en fait, ils risquent leur vie en faisant ça, quoi. Ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, ils posent des collets, mais ça prend pas que des rhinos. C'est que ça arrive que, voilà, il y a un lion qui passe dedans, qui s'étrangle dedans, et voilà, ça touche toutes les espèces, en fait. Et ça, c'est assez tragique. Donc on a eu une grande, grande sensibilisation sur tout ce qui est braconnage dans les réserves. Et donc on est allé travailler avec cette unité anti-braconnage. Eux, pour les aider, ce qu'on a pu faire, c'est essayer de leur construire des des nouveaux postes de guet en plein milieu du bush. Donc on allait à un endroit, on prenait les 4x4, on sortait des chemins et on allait en plein milieu des buissons trouver un endroit vraiment isolé mais avec un bon point de vue. Et donc pour construire ces tours de guet, il fallait creuser des trous dans le sol. Alors c'était assez strict, il fallait creuser des trous de 1 mètre de profondeur. On peut penser que c'est pas si profond que ça, mais quand même, sur 40 cm de large. Sauf que, bon, avec une pioche et une pelle, dans 40 cm de large, tu l'utilises pas longtemps, tu fais 20 cm, et après, tu peux plus trop l'utiliser. Donc après, c'était à coup de baramine, et il fallait écoper avec toute la terre, avec une petite cup, et tout ça. Donc on a mis plusieurs heures à creuser 4 pauvres trous. Et au bout d'un moment, pour aller chercher le mètre de profondeur, bah tu mets la tête dans le trou, quoi, et puis tu y vas, tu écopes. C'était assez dur comme travail, tout ça encadré par la patrouille, donc du coup qui est armée, hein, tout ça, parce que bon, quand t'as la tête dans le trou, tu sais pas s'il y a des animaux qui arrivent derrière. On a eu l'occasion de faire des patrouilles de nuit aussi, et ça c'est assez fou, parce que du coup la nuit tout change. On est dans le 4x4, et puis voilà, t'es dans le noir, t'es sous l'étoile, t'as une ambiance très très différente, et tous les animaux qui sortent sont pas les mêmes que dans la journée, quoi. Déjà, quand tous les hippopotames, par exemple, sont sortis. Et là, ça arrive de tomber nez à nez avec un hippopotame ou une famille d'hippopotames, et quand tu les vois hors de l'eau et juste à côté de toi, bah, ça donne pas le même effet. En plus, il y avait des petits, et il paraît qu'il y a pas plus agressif qu'une mère hippopotame et son petit. Donc, là, je me souviens, notre rangeuse Jamie qui était au volant, elle disait, alors là, c'est super dangereux, l'éclaire surtout pas, vas-y, on taille la route. Et là, je l'ai jamais vue aussi vive, hop, on a foncé. Et voilà, tu vois plein d'autres animaux, t'as une sorte de petit animal, c'est un mix entre un lapin et un kangourou. Ça ressemble à rien, ça ressemble à une grosse patte de kangourou. Et du coup, il y en a partout. Et quand du coup tu te balades en éclairant avec ton gros spot, tu vois des petits yeux qui gambadent partout dans le noir. C'est assez marrant à regarder, quoi. Et on a eu la chance de tomber nez à nez avec un léopard. Il n'y en a pas beaucoup dans la réserve et ils sont super durs à voir. Et là, il est arrivé, mais juste à côté du véhicule. Et franchement, t'es là, tout le monde se tait, tout le monde regarde et admire le bestiau, quoi. Pendant cette expérience, on a aussi eu l'occasion de faire des actions humanitaires. Par exemple, un jour, on est allé dans un petit village à une heure de route qui s'appelait Colchester, et on a travaillé avec une association locale où le but, c'était que les enfants ramènent des sacs de poubelle remplis de bouteilles plastiques ou de canettes en alu. Et on pesait leurs sacs, et en fonction du poids qu'ils nous ramenaient, on leur donnait des tickets. Et ces tickets, ils pouvaient les changer dans une boutique qu'on a mis en place à côté, où ils pouvaient les changer contre des vêtements, de la nourriture, des bonbons, des jouets. Alors, ce qui était assez fort, c'est que du coup, on voit que les gens mettaient beaucoup de valeur à cette action, et les parents souvent forçaient les enfants à acheter que de la nourriture. Sauf que nous, on les obligeait à prendre au moins un truc pour l'enfant, genre un bonbon, un vêtement, un jouet. Voilà, c'est aussi pour eux qu'on le faisait. Mais on voyait que pour eux, c'était important et qu'ils mettaient beaucoup de valeur à ces tickets pour acheter de la nourriture. Je me souviendrai toujours de cette petite fille, du coup, à qui il me semble que je lui ai pas donné beaucoup de tickets. Quand elle est ressortie du petit shop où elle avait acheté des trucs, elle avait acheté un petit bonbon, et elle a tenu absolument à partager avec moi. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Enfin, ça m'a fait super plaisir que voilà, que le petit truc qu'elle avait acheté, elle a tenu à le partager avec moi. Et ça, voilà, c'était un moment, voilà, je l'oublierai pas, quoi. Au final, ce que j'ai remarqué, c'est que la vie de ranger, c'est tous les jours une aventure différente, et c'est assez passionnant. Pendant cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses sur la faune, sur la flore. Et voilà, ça a été vraiment une expérience dingue. C'est exactement en fait ce que je voulais, ce que je recherchais en fait. Et ce que je retiendrai aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est la deuxième fois que je vais en Afrique du Sud, et à chaque fois, je suis émerveillé par la nature et la lumière, les luminosités que tu peux avoir là-bas, les paysages que tu peux avoir là-bas. Tous les soirs, on avait un coucher de soleil mais magnifique. Et on avait un petit rituel avec avec les potes que je me suis fait là-bas, c'est tous les soirs à l'heure du coucher du soleil, on prenait une petite tasse de café, une petite clope, et on allait au bout de au bout du lodge et on se posait sur une petite butte et on regardait ce coucher de soleil. Et ça, à chaque fois, c'était un moment magique, quoi. Au final, les deux semaines sont passées super vite et il est venu le moment où où fallait dire au revoir à tout le monde et prendre la direction de l'aéroport. Forcément, ça fait un petit coup dur. Et là, j'ai eu la chance de, on avait le même avion avec une fille avec qui, une Autrichienne avec qui on a passé deux semaines ensemble. Ça nous a permis, le vol nous a permis de faire un petit débriefing de cette expérience, ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé, les meilleurs souvenirs qu'on va en avoir. Là, on avait une escale à Zurich. Et arrivé à Zurich, il faisait 0 degré, il neigeait. Et là, tu réalises, tu dis, bon, l'Afrique, c'est fini. Et je me souviens, on s'est posé à un café, puis venu le moment où on s'est séparé, elle pour retourner en Autriche, moi en France. Et là, je me suis retrouvé tout seul à nouveau. Et voilà, là, tu te dis, ça y est, c'est fini.
Merci pour ce récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai voulu raconter ce voyage parce que ce voyage, il était important pour moi, pour plusieurs raisons. Premièrement, déjà, c'était pour réaliser un rêve. Cette expérience de ranger, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bon bout de temps. En fait, il y a deux ans, j'étais déjà allé en Afrique du Sud avec ma copine de l'époque. On avait fait un road trip et puis on avait passé quatre jours dans le parc Kruger. Et pendant ces 4 jours, déjà, j'ai kiffé. Et on avait loué les services d'un ranger pour pouvoir se balader avec eux à pied au milieu du parc. Et juste, c'était un moment mais que j'ai adoré, enfin, se retrouver au milieu de la nature comme ça. Et je me suis toujours dit, à partir de ce moment-là, j'ai envie de retourner en Afrique, dans une réserve, pour vivre une expérience de ranger, mais plus profondément, quoi. Parce que ce mec, il nous avait appris plein de trucs, et j'ai trouvé ça dingue. D'autre part, en plus, ce voyage était un défi personnel. C'était la première fois que je partais tout seul en voyage loin. Je me demandais, voilà, est-ce que tu peux le faire ? Et puis, troisièmement, ce voyage, c'était un peu une transition aussi dans ma vie, un renouveau. C'est-à-dire que l'année qui vient de passer a été un peu dure pour moi sur le plan personnel. Il y a eu pas mal de changements et voilà, cette année c'est je revenais de voyage, je changeais de job, je changeais d'appart, enfin voilà, c'était histoire de faire une transition, une coupure, une page blanche.
Pour le fait d'être deux semaines en pleine savane, ça devait tu l'as dit plusieurs fois dans ton récit que c'est un endroit dangereux, il faut être sur ses gardes. Est-ce que il y a eu des moments, des anecdotes où ouais, c'était un peu chaud pour toi?
Y a eu des moments un peu chauds. Après, ça n'a pas été forcément dans la réserve ou à cause de la nature ou des animaux. C'est vrai que les routes peuvent être un peu dangereuses en Afrique du Sud. Je me souviens du jour où on partait en mission humanitaire. On devait prendre le van pour faire une heure de route. Et ce jour-là, il pleuvait des cordes. Mais vraiment, c'est peut-être le seul jour de pluie qu'il y a eu. Et j'arrive au van, c'est un van typique de là-bas, on rentrait à 15 à l'intérieur. Je suis un des derniers à rentrer et juste avant de rentrer, je regarde un peu l'état des pneus. Je suis un peu stressé en voiture. Clairement, quand j'ai pas le volant entre les mains, je suis un peu stressé. Je regarde l'état des pneus et clairement, les deux pneus de gauche étaient sous-gonflés, quoi. Et du coup, je demande à Jamie, qui c'est elle qui allait conduire... Elle, je la voyais, elle était un peu perturbée aussi, elle a regardé vite fait, elle a dit « Ouais, c'est bon, ça va le faire ». Bon, très bien. Il y a mon pote Paul qui monte dans le véhicule à côté de moi, et je sais que c'est un peu un stressé, et je lui en parle. Il regarde les pneus aussi, et il dit « Wow, mince, j'avoue, c'est trop dangereux et tout bon. ». Et là, 5 minutes plus tard, je vois Jamie, elle fait un petit écart sur la route, on commence à partir sur le côté gauche, et là elle essaie de rattraper, elle donne un coup de volant à droite, là le camion il part en tête à queue, je sens qu'elle tente de rattraper le truc, elle freine à fond, et là on voit le fossé en face qui se rapproche, et on s'arrête juste devant, quoi. Mais
plus de peur que de mal. Je voyais la pauvre Jenny, elle était toute tremblante. Elle est sortie du véhicule, elle est pleurée un petit moment. Puis elle est revenue, elle était, mais je suis désolé, guys, j'ai failli vous tuer et tout. C'était, voilà, plus de peur que de mal, mais j'avoue que c'était un moment assez intense que t'as pas l'habitude de vivre ça.
De manière générale, et pour se parler des autres voyages, est-ce que toi tu as un rituel avant de partir? Quelque chose que tu fais toujours, je sais pas, dans le même ordre ou...
J'ai pas de rituel à proprement dit. J'essaye de le préparer au mieux que je peux. Moi, ce que j'aime dans un voyage, alors j'ai ce voyage un peu particulier parce que c'est pas un road trip. En général, quand je voyage, je suis plutôt road trip. Et j'aime bien prévoir quelques petits trucs, mais pas tout. Laisser la place à l'imprévu. Là, par exemple, pour ce voyage, ce que j'avais prévu, c'est faire un sac où il me manque rien et préparer, savoir où je vais dormir le premier soir. Bon, là, c'était louer un Airbnb.
Qu'est-ce qu'on va toujours trouver dans ton sac quand tu voyages?
Quand je voyage, je prends toujours mon harmonica. C'est mon truc. Il est toujours avec moi en voyage. Ça me permet, quand il y a un moment où je suis seul et je suis content, bah, je joue un petit air. Et puis, même quand il y a un moment où t'es un peu en bad, bah, tu joues un petit air. Quand il y a un bon moment avec plein de gens et qu'il y a quelqu'un qui sort une guitare, bah, tu joues un petit air. Voilà, c'est ce truc-là est toujours dans mon sac.
Pareil, tu avais fait une rencontre avec ce couple de cinquantenaires quand tu étais dans un café, je crois, pour écrire ton journal de bord. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Et de manière générale, comment tu racontes tes voyages?
Écrire un carnet de bord, non, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je l'ai fait dans des précédents voyages, pas de manière très assidue. Écrire un carnet de voyage, ça demande un peu d'autodiscipline. Bon, là, j'ai essayé de m'y tenir vraiment, je l'ai fait. Mais il y a toujours un moment où tu dis, mince, ça fait déjà un jour et demi, j'ai rien écrit dedans, je prends du retard. Du coup, tu te forces pour pas oublier. Donc au début, tu te forces et puis finalement, après, ça devient une habitude. T'as 5-10 minutes, t'as un moment fort qui vient de se passer, tu te poses et puis tu écris. Après, de manière globale, je prends toujours ma GoPro quand je pars en voyage pour faire des séquences. Et puis alors, en général, quand je reviens, je fais un petit montage vidéo. Je trouve que ça procure plus de sensations. Il y a un meilleur ressenti quand tu essaies de montrer aux autres. Je trouve que la vidéo, ça fait passer plus de choses. Et c'est plus représentatif de l'ambiance qui pouvait y avoir.
T'as mentionné des rencontres sur place et des relations sans doute un peu fortes que t'as dû nouer avec les autres volontaires du parc. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué plus particulièrement?
Il n'y a pas de rencontre qui m'a marqué vraiment plus qu'une autre. Il y avait vraiment des gens partout, de tous les pays, et chacun avait quelque chose d'intéressant. Chacun avait quelque chose à transmettre, chacun avait quelque chose à apprendre. Et d'avoir passé 2 semaines au même endroit avec tous ces gens... Il y a eu une osmose entre tout le monde. Je pense qu'en fait, on a vraiment créé un esprit de groupe. Et ça qui était vraiment intéressant. Après, forcément, j'étais avec deux Français, dont un qui partageait ma chambre, c'était les chambres de deux. Lui, je me suis vraiment bien entendu avec lui. On a vraiment déliré pendant 2 semaines. Et du coup, lui, j'ai gardé contact et on s'est déjà revu une fois en France et je continue à le revoir.
Oui, c'était une de mes questions. Est-ce que de manière générale, tu considères les rencontres en voyage comme des rencontres un petit peu éphémères? Ou est-ce que tu as tendance à garder contact avec les gens que tu rencontres sur place?
Je dirais que ça dépend du contexte. C'est-à-dire que souvent, comme je l'ai dit, mes voyages, c'est plutôt en mode road trip. Tu fais des rencontres ponctuelles qui t'apportent quelque chose sur le moment. Tu les remercies sur le moment. Je me souviens, par exemple, mon voyage... au Vietnam, on attendait un bus. Ma copine était partie chercher à manger. Moi, j'attendais tout seul. Et là, il y a un mec qui, dans sa maison, m'a vu tout seul. Et il m'a invité à prendre l'apéro. Ma copine, elle revient, elle me cherche. Et puis là, elle me voit à l'intérieur, assis au milieu du salon, en train de prendre l'apéro avec 3 mecs inconnus. Et voilà, donc c'est une rencontre éphémère. Le mec, le cœur sur la main, il connaît pas, il t'invite chez lui. Mais voilà, tu n'utilises pas une, une relation, je vais pas garder contact avec lui. Tu peux juste le remercier grandement et voilà quoi.
Pour se parler du futur un peu, c'est quoi tes futurs projets de voyage ?
Ah, ça c'est toujours une grande question. D'habitude, j'essaye de faire au moins un grand voyage par an. Bon bah, cette année c'est déjà passé. Faut que je pense à la suite, c'est sûr. Je pense que le prochain voyage, ça va être peut-être plutôt quelque chose de plus proche en Europe. C'est vrai que c'est finalement, c'est les pays les plus proches que tu visites le moins. On me parle beaucoup des pays de l'Est. J'ai encore jamais fait. Je pense que je vais aller faire un tour dans les prochains mois.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que t'as, voilà, quelque chose à rajouter? Ça peut être une anecdote, un proverbe. C'est à toi.
Bah, j'aurais bien voulu sortir une petite citation de Nelson Mandela, qui aurait été de bon ton pour ce voyage, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, tout ce que j'aurais envie de dire, c'est juste pendant votre voyage, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, parce que c'est vraiment ce qui amène les meilleures expériences et ce sera forcément quelque chose où vous serez fier à raconter.
Merci beaucoup.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui.
C'est vrai que j'ai cherché ailleurs une partie de moi, mon bonheur.